Je voudrais d'abord faire un constat. En ce qui concerne la personne de Jésus, les gens ont des avis très contrastés, non? Nous ne sommes probablement pas loin de 100% dans cette salle, ici ce soir, à croire que Jésus a existé, par exemple. Mais d'après un sondage réalisé en 2006, pas si longtemps, par l'institut de sondage CSA pour le magazine La Vie, d'après ce sondage, 71% des Français ne sont pas sûrs que Jésus ait existé. Et 1 sur 4 même, c'est-à-dire 25%, sont sûrs qu'il n'a pas existé. D'accord? Donc ce soir, on n'est pas très représentatif de la population française, hein. 1 sur 4 est sûr que Jésus n'a pas existé. Autre exemple. Si vous allez sur Google, et on peut s'amuser avec Google, hein. Vous allez sur Google, vous commencez à taper dans la barre de recherche « Jésus est ». Et bien ensuite, Google vous propose des suggestions de recherche, d'accord, à travers leur système de saisie automatique, qui représente un peu les recherches les plus courantes. Ben, les deux premières suggestions de recherche qui vous sont proposées sont les suivantes. D'abord, Jésus est Dieu. Et ensuite, deuxième, Jésus est né en Provence. Alors, ça s'explique parce que c'est le titre d'une chanson, en fait, le titre d'une chanson de Robert Miras dans les années 70. Alors, si vous changez Jésus est, vous mettez Jésus-Christ est, vous obtenez, premièrement, Jésus-Christ est Seigneur, qui en est d'accord avec ça. Puis, deuxième proposition, Jésus-Christ est un hippie, qui est aussi le refrain d'une chanson, cette fois de Johnny Hallyday. Voilà. Donc, tout s'explique, hein. Avis contrasté sur la personne de Jésus, vous voyez, avis contrasté. Encore un exemple. Nicolas, qui est responsable de la sortie ski, a récemment attiré mon attention sur une information intéressante que je ne connaissais pas. Il paraît qu'un rabbin, un grand rabbin du nom d'Isaac Kadouri, qui est mort en 2006, aurait eu une vision, un rabbin un juif, hein, une vision en 2003, à la suite de laquelle il aurait inscrit sur un petit papier le nom du Messie qui s'est révélé à lui dans cette vision. Et ensuite, il aurait confié cette note à ses disciples en leur disant de la garder secrète jusqu'à un an après sa mort. Et donc, l'anniversaire de sa mort est arrivé en 2007, donc, et on a découvert à ce moment-là que le nom qui était inscrit sur cette note était Jésus. Incroyable! Mais les réactions à cette révélation ont été très contrastées, encore une fois. D'accord? Certains juifs ont crié au blasphème, ont employé ces termes de blasphème. C'est fort, quand même. Tandis que d'autres, y compris certains parmi les disciples de ce rabbin, sont restés tout simplement perplexes, désorientés, ils n'arrivaient pas à comprendre. D'autres encore ont nié l'authenticité de la note. Avis contrasté, vous mentionnez le nom de Jésus, avis très contrasté en ce qui le concerne, hein. Vous voyez, pour les uns, Jésus représente ce qu'il y a de mieux, pour les autres, ce qu'il y a de pire, de meilleur et de pire. Et je n'exagère pas, hein. Bien sûr, il y a toutes sortes d'avis entre les deux. Et c'est un peu ce constat que l'évangéliste Matthieu, hein, qui écrit son évangile, veut dresser devant ses lecteurs, donc c'est le texte qui nous intéresse ce soir, dans ce deuxième chapitre de son récit, l'évangile selon Matthieu. Et il veut dresser ce constat devant ses lecteurs alors même qu'il en est encore au stade de la présentation de Jésus, son personnage principal. Il n'a pas fini de le présenter, il est en train de l'introduire dans son récit, et dès le deuxième chapitre, il veut nous dire qu'il y a des avis très contrastés sur sa personne, sur Jésus. Alors on a compris, hein, d'après le premier chapitre, rappelez-vous, que Matthieu voulait nous raconter l'histoire du Messie tant attendu, ce personnage tant attendu par les Juifs, et qui est maintenant venu en la personne de Jésus, fils d'Abraham, fils de David, fils de l'exil, Jésus né d'une vierge conformément aux prophéties, etc., etc. Il est enfin venu. Donc, c'est ce qu'on sait à la fin du premier chapitre. Et arrivé à la fin du premier chapitre, on a bien l'impression d'avoir assisté à la naissance de ce héros formidable qui va nécessairement s'imposer naturellement dans la société comme sauveur et seigneur. Qu'est-ce qu'on attend d'autre à la fin du premier chapitre de l'évangile selon Matthieu? Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, dans les détails de sa vie et de son œuvre, de la vie et de l'œuvre de Jésus, Matthieu va nous montrer tout de suite, comme pour nous préparer, pour nous conditionner pour ce qui va suivre, il veut nous montrer tout de suite la dimension conflictuelle du ministère de Jésus, le Messie, le Sauveur du monde. La dimension conflictuelle. Il veut nous faire comprendre dès le départ que le Messie va provoquer des réactions très très contrastées, très opposées. Et il ne veut pas, Mathieu, l'auteur, il ne veut pas, vous allez le voir, il ne veut pas qu'on se fasse des illusions sur le genre d'accueil qui va être réservé à cet homme qui vient de naître et qui est l'envoyé de Dieu, venu parmi les hommes, pour bénir le monde, fils d'Abraham, pour bénir le monde, fils de David, pour établir son règne bienveillant, fils de l'exil, pour sauver les pécheurs. Il ne veut pas qu'on se fasse des illusions sur le genre d'accueil qui lui est réservé à ce Messie. La leçon qu'il veut nous transmettre, somme toute, c'est la suivante. Jésus, le Messie, est loin d'être consensuel. En le suivant, tu choisis vraiment ton camp. Jésus, le Messie, est loin d'être consensuel. En le suivant, tu choisis vraiment ton camp. Et cette leçon, il va nous la transmettre en trois étapes qu'on va voir ce soir. D'abord, en nous parlant d'un Messie très recherché. Ensuite, en nous parlant d'un Messie pourtant rejeté. Et enfin, d'un Messie quand même qualifié. D'accord? Vous êtes prêts? Alors, on lit le texte. Matthieu, chapitre 2. Vous allez voir, c'est une histoire bien connue. Et plus ou moins de saison. Enfin, si, c'est encore de saison. Il y a encore des galettes, des rois, n'est-ce pas, dans les magasins. Matthieu, chapitre 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et lui dire « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez !» Et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est faite entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. On va arrêter ici la lecture de la parole de Dieu, et avant de continuer, on va prier. Merci beaucoup Seigneur pour ta parole, elle est la vérité. Notre prière maintenant, c'est que tu nous instruises Seigneur, toi-même. Que tu nous sanctifies par ta vérité sous l'effet de ton Saint-Esprit, et au nom de Jésus ton Fils. Amen. D'accord, la leçon du texte, Jésus le Messie est loin d'être consensuel. En le suivant, tu choisis vraiment ton camp. D'abord, la première chose que Matthieu veut nous faire comprendre dans ce texte, versets 1 à 11, c'est que Jésus est venu comme un cadeau pour le monde d'une valeur exceptionnelle. Jésus est venu comme un cadeau pour le monde d'une valeur exceptionnelle. Donc le texte vient tout juste de mentionner la naissance de Jésus au début du chapitre, et immédiatement après, on apprend 3 choses. D'abord, on apprend que sa naissance a eu un effet sur la nature. puisqu'il y a des étoiles qui ont commencé à bouger, n'est-ce pas? Première chose, sa naissance a eu un effet sur la nature. Deuxième chose, cet effet sur la nature a eu un effet sur des gens qui sont venus d'un pays étranger, les fameux mages. Troisième chose qu'on apprend, c'est que l'effet, cet effet sur des gens venus d'un pays étranger a à son tour eu un effet sur Hérode et sur les habitants de Jérusalem. D'accord? On voit donc que la naissance de Jésus a des répercussions immédiates et importantes, la plus remarquable, en tout cas celle que Matthieu juge bon de relever tout de suite, c'est l'arrivée de ces mages étrangers venus pour adorer Jésus. Incroyable. Et ensuite, on a un échange très intéressant et significatif qui se passe entre les mages. Ce sont donc des espèces d'astrologues venus de l'étranger, hein, qui ne sont pas des juifs, ne sont pas des israélites, ne connaissent pas grand-chose à la religion des juifs. Ils viennent de l'étranger et ils ont un échange avec les responsables des juifs, hein, le roi Hérode, les principaux prêtres et les scribes qui sont les spécialistes de la Torah. Et les étrangers venus d'Orient s'informent auprès des juifs du lieu de naissance du Messie d'après les informations contenues dans les prophéties. Et ensuite, ils vont se rendre à cet endroit, c'est-à-dire à Bethléem. Et en effet, ils y trouvent Jésus et ils vont lui offrir leurs hommages sous la forme de dons extrêmement précieux, hein, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ce qui est formidable, enfin, formidable, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas très remarquable, c'est que les Juifs, dans ce texte, qui sont si bien informés, eux, ils ne bougent pas d'un pouce. D'accord? Ils envoient les mages voir à Bethléem ce qu'ils vont y trouver. Mais ils bougent pas, ils restent à Jérusalem. Malgré un semblant d'intérêt, pourtant manifesté, semble-t-il, par le roi Hérode, mais on découvrira plus tard qu'en fait, il avait d'autres motivations qu'adorer le Messie. Et donc, les Juifs de ce texte restent à Jérusalem. Ils ont donc, en quelque sorte, et c'est là que c'est très significatif ce qui se passe dans cet échange entre les mages, les étrangers venus de loin, et puis les Juifs, ce qui se passe, c'est que, en quelque sorte, les Juifs, du texte, ont livré leur Messie à des étrangers sur un plateau. Hein? Vous êtes venus rencontrer le Messie? Mais bien sûr! Voilà ce qui est dit dans la Torah, il doit naître à Bethléem, allez-y! Les Juifs livrent leur Messie sur un plateau à des étrangers. C'est très intéressant ce qui se passe. On a ici plus qu'une anecdote. Hein? Matthieu tient à nous montrer que Jésus est venu, oui, comme roi des Juifs, d'ailleurs c'est comme ça qu'il est présenté, fils de David donc, mais il est venu pour le monde, il est venu comme roi des Juifs, mais pour le monde, il est fils de David, roi des Juifs, mais fils d'Abraham, source de bénédiction pour le monde entier. Et les premières personnes dans ce texte à venir à la clinique, si j'ose dire, pour rencontrer le petit bébé qui vient de naître, enfin, il est probablement plus si petit à ce moment-là, mais il est encore tout petit, il a moins de 2 ans, ça c'est sûr. Les premières personnes à venir rendre visite aux heureux parents pour voir le bébé, ce sont des étrangers. Des étrangers venus de loin. Alors, je tiens à préciser que ce que je dis ici, c'est d'après le récit de Matthieu. Parce que dans le récit de Luc, on a d'autres personnages, on a des bergers, etc. Mais dans le récit de Matthieu, les premières personnes à venir rendre visite à Jésus pour l'adorer sont des étrangers venus de loin. Matthieu veut nous faire comprendre que Jésus est venu donc comme un cadeau pour le monde d'une valeur exceptionnelle. D'une valeur exceptionnelle. Il a attiré des gens de loin qui sont venus le voir. Et dans la vie, comment peut-on parfois obtenir un indice de la valeur de quelque chose? Bien, parfois, on peut se douter qu'un objet particulier est d'une grande valeur, tout simplement parce que cet objet est très recherché ou très demandé. Hein? Un objet très recherché ou très demandé, on se dit, ben ça, cet objet, il doit avoir une valeur, même si on ne comprend pas exactement quelle est sa valeur, quelle est son utilité, on ne sait même pas forcément ce que c'est que cet objet, mais si c'est très recherché, très demandé, alors forcément, on se dit, ben ça, c'est un indice de la valeur de cet objet. Je me souviens d'une scène dans le film Intouchable, que je n'ai pas particulièrement aimé d'ailleurs, mais bon bref, c'est une autre histoire. Dans le film Intouchable, il y a une scène où un des héros, qui est un collectionneur de tableaux abstraits, si je me souviens bien, il cherche à vendre une peinture qu'a faite son ami qui n'avait jamais peint de sa vie. Et la réalité, c'est que ce tableau, en fait, en lui-même, n'avait absolument aucune valeur. Il a été peint par un amateur qui n'avait jamais peint, il a fait des trucs au pif et puis ça a fait un tableau. Mais ce spécialiste de l'art abstrait fait croire à un acheteur potentiel qu'un tel autre spécialiste serait prêt à l'acheter 20 000 euros ce tableau. Alors immédiatement, cet interlocuteur va faire une offre supérieure, un peu par orgueil, vous voyez. Non, mais s'il y a celui-là qui vit prêt à payer 20 000 euros, ben moi, forcément, il le faut, ce tableau. Il doit être d'une valeur vraiment exceptionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, certes, dans cet exemple, c'est une arnaque. Mais toujours est-il que lorsque quelque chose est réellement très demandé, très recherché, réellement, hein, quand c'est pas un mensonge, quand c'est pas une arnaque, c'est que ce quelque chose mérite probablement notre attention quand même. Et dans le texte, c'est ce qui se passe. Hein. Ce petit garçon qui vient de naître a fait réagir les étoiles dans le ciel. Et il a fait venir des étrangers de très loin. Ça, c'est la réalité. C'est pas inventé. C'est ce qui s'est vraiment passé. Ce Messie, ce roi des Juifs, est donc d'une valeur exceptionnelle et pas juste pour les Israélites de l'époque qui attendent sa venue depuis de nombreux siècles, mais aussi d'une valeur exceptionnelle pour le monde entier, pour les mages venus d'Orient, et pour les Européens aujourd'hui, et pour les Océaniens, et pour les Arabes, et pour les Esquimaux, et pour les Indiens d'Amérique, et pour les Nord-Coréens. Jésus est un cadeau d'une valeur exceptionnel, un cadeau pour le monde d'une valeur exceptionnelle. Et ce cadeau d'une valeur exceptionnelle, je sais que la plupart d'entre nous ici cet après-midi, parce que la plupart d'entre vous, je vous connais assez bien, je sais que nous l'avons reçu, ce cadeau, par la grâce de Dieu. Je ne sais pas pour tout le monde, je ne vous connais pas tous. Mais qu'est-ce que nous en avons fait de ce cadeau? Est-ce que nous nous en sommes lassés quelque part? Un peu comme ces cadeaux de Noël qui nous réjouissent le jour de Noël quand on les ouvre, et puis au bout de quelques semaines, quand même, ils se retrouvent un peu rangés au placard, parce que bon, on s'en est un peu lassé, on s'est un petit peu habitué. C'est tout ce que j'ai toujours voulu recevoir, merci papa, merci maman. Et puis voilà, quelques mois plus tard, est-ce que je pourrais pas avoir ceci ou cela? Et puis le cadeau en question est rangé au placard. Jésus, qui vient de naître, déplace les étoiles et attire des mages venus d'un pays étranger. Il se révèle aujourd'hui, ce Jésus, ce même Jésus, il se révèle à des chanteurs satanistes de heavy metal, je pourrais vous en citer, qui ont des témoignages extraordinaires. Il délivre des toxicomanes de la drogue et de l'alcool. Il se révèle à des marginaux, il se fait connaître à des musulmans dans des rêves. Il convertit les athées les plus endurcis. Certains parmi vous en savaient quelque chose. Je peux vous dire que ce Messie est très recherché. Très recherché. Et par toutes sortes de personnes. Et nous avons la chance de le connaître ou de pouvoir le connaître. Ne perdons pas notre enthousiasme pour Jésus. Ne perdons pas notre éblouissement devant ce cadeau d'une valeur exceptionnelle. Ne perdons pas notre premier amour. Je vous renvoie à la prédication de Florent il y a 2 semaines sur ce sujet. Un Messie très recherché, mais un Messie pourtant rejeté. Et regardons ce qui se passe. La deuxième chose que Matthieu veut nous faire comprendre à partir du verset 12 cette fois, c'est que Jésus est capable d'attirer sur lui l'opposition la plus surprenante et la plus féroce. Jésus est capable d'attirer sur lui l'opposition la plus surprenante et la plus féroce. Donc après avoir présenté leurs hommages et leurs cadeaux à Jésus, les mages reçoivent, vous avez vu dans le texte, ils reçoivent un avertissement, celui de ne pas retourner vers Hérode. Ensuite, Joseph, à son tour, le papa adoptif de Jésus, reçoit un avertissement dans un rêve. Et à son tour, il fuit avec sa famille, avec Marie et avec Jésus, il fuit en Égypte. Et l'explication de tout cela nous est donnée, c'est que Hérode veut tout simplement éliminer ce Jésus qui vient de naître. Et après, on découvre verset 16, ce qu'il fait dans sa fureur pour s'assurer de ne plus jamais entendre parler de ce prétendu Messie, Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'ordre de tuer tous les garçons jusqu'à l'âge de 2 ans, dans la région de Bethléem où Jésus est né, juste pour être sûr. C'est abominable. On est peut-être un peu habitué à cette histoire, mais quand on y pense, imaginez que des ordres d'en haut, des ordres du roi, des ordres du président de la République, d'accord, soient donnés en toute légalité pour éliminer, tuer vos enfants, vos garçons qui ont moins de 2 ans. Quelle horreur! C'est d'autant plus horrible que cette démarche est faite par celui qui, à ce moment-là, représente les Juifs, celui qui représente le peuple de Dieu, le roi Hérode, celui qui occupe le trône à Jérusalem, même si ce trône est subordonné à cette époque-là, il est subordonné à l'autorité des Romains. Mais quand même, c'est Hérode, le roi, qui occupe le trône ici, à Jérusalem. Et le caractère surprenant et horrible de ces événements est renforcé encore davantage par le fait qu'il y a là, dans cette histoire, une réminiscence de ce qui s'est passé, rappelez-vous, au début du livre de l'Exode, au moment de la naissance, à l'époque de la naissance de Moïse, lorsque le Pharaon ordonne que l'on fasse mourir tous les nouveau-nés des Hébreux qui sont des garçons. Vous vous souvenez de cette histoire? Il y a une réminiscence là, il y a un parallèle, il y a un écho, il y a un souvenir. Sauf qu'ici, dans l'évangile de Matthieu, qui c'est qui occupe le rôle de Pharaon? Qui c'est qui joue le rôle du méchant roi idolâtre païen ennemi du peuple de Dieu? Qui c'est qui joue ce rôle? C'est Hérode, le roi des Juifs. Et comble de l'ironie, pour échapper à sa fureur meurtrière, Jésus et sa famille se réfugient en Égypte. Donc c'est exactement l'histoire symétrique, si vous voulez, de ce qui s'est passé au début de l'Exode, où il fuit le Pharaon en quittant l'Égypte, mais là il fuit le nouveau Pharaon en allant en Égypte. Ce sont des événements qui se déclenchent très tôt, hein, dans la vie de Jésus, on l'a dit, et dans le récit de Matthieu, ce qui nous montre que Matthieu veut nous faire comprendre sans tarder, sans plus tarder, que Jésus est capable d'attirer sur lui l'opposition la plus surprenante et la plus féroce. Le texte biblique nous invite ici à ne pas nous faire d'illusions. En lisant le récit, on est choqué de voir que le représentant par excellence des Israélites rejette avec une haine quasi irrationnelle son propre Messie. Hérode, le Juif, rejette avec fureur, avec une haine irrationnelle, son Messie à lui. Mais aujourd'hui encore, hein, des gens très bien placés, très intelligents, très puissants, très éduqués, très bien informés, ont aussi à l'encontre de Jésus, parfois une espèce de phobie irrépressible. Michel Onfray, le philosophe français athée, a consacré un quart de son livre intitulé « Traité d'athéologie » au christianisme, et il a intitulé les trois chapitres de la manière suivante. D'abord, la construction de Jésus, autrement dit, Jésus a été inventé. Ensuite, la contamination paulinienne, c'est la référence à l'apôtre Paul. Et enfin, l'état totalitaire chrétien. Et sa thèse, c'est que Jésus n'a jamais existé. Il appelle Jésus un ectoplasme invisible, un fantôme, un mythe. Et son diagnostic concernant les auteurs du Nouveau Testament, c'est qu'ils souffraient d'auto-intoxication intellectuelle et d'aveuglement ontologique. Et Michel Onfray, eh ben, il apparaît régulièrement sur les plateaux télé, hein, et à la radio. On l'invite à parler, à donner son avis. Mais s'il passe à la télé quand même, c'est qu'il a des choses vraies à dire, non? Enfin, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de crédible. Bernard-Henri Lévy, lui aussi apparaît régulièrement sur les plateaux de télévision. Alors lui, il est juif, également philosophe, et lui non plus, semble-t-il, n'aime pas Jésus, mais alors pas du tout. Il dit avoir été comme frappé par la foudre lorsqu'il a appris que sa petite sœur Véronique s'était convertie à Jésus l'année dernière. Et sans doute avez-vous à l'esprit d'autres exemples de gens qui ont une réaction pratiquement épidermique à Jésus. Même si c'est difficile à expliquer, sachez simplement que c'est normal. C'est normal. Ça a commencé avec Hérode et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Beaucoup de gens voient Jésus comme une menace pour leurs propres intérêts, une menace pour leur pouvoir, pour leur autonomie, pour leurs désirs, pour leurs passions, pour leurs idoles. Et il se trouve qu'ils ont raison d'ailleurs. Cette phobie que certaines personnes ont à l'encontre de Jésus témoigne en fait de la puissance de Jésus. Hérode a raison de se faire du souci. Jésus est effectivement venu récupérer le trône qu'Hérode occupe de manière indigne et inique. Il est venu pour occuper le trône de David, le trône de Jérusalem. Jésus est le vrai roi, non seulement des Juifs, mais aussi du monde. Et Hérode lui doit son allégeance. Et aussi Michel Onfray doit son allégeance à Jésus. Et aussi Bernard-Henri Lévy, et aussi Richard Dawkins, et aussi Vincent Peillon, et aussi Kim Jong-un. Actuel chef suprême de la Corée du Nord, tous doivent allégeance à Jésus, le roi du monde. Donc Matthieu veut que nous ayons conscience que Jésus est capable d'attirer sur lui l'opposition la plus surprenante et la plus féroce. Ne soyons donc pas surpris. Matthieu introduit dès maintenant dans son récit Tout de suite après la naissance de Jésus, il introduit le caractère conflictuel du ministère de Jésus, un caractère conflictuel qui va durer tout au long du ministère de Jésus, tout au long de son œuvre, de son enseignement, et qui va culminer à la croix, comme on va le voir dans quelques instants. Mais pour l'heure, on doit surtout retenir deux choses de ce deuxième point, c'est que nous devons d'une part nous méfier de la crédibilité qu'on est naturellement enclin à accorder à certaines personnes, juste parce qu'elles nous semblent bien placées, ces personnes. Pensez-vous, Hérode, les principaux sacrificateurs, les scribes, alors quand même ce sont des spécialistes de la parole de Dieu, des spécialistes de la Torah, des spécialistes des prophéties. Ils ont rejeté Jésus, pardon. Donc, c'est qu'ils ont raison. Mais non, pourtant, ils n'ont pas du tout raison. Deuxièmement, nous devons aussi prendre ce texte comme un avertissement contre le danger de notre propre incrédulité. Hein, Hérode et les autorités juives avaient toutes les informations nécessaires pour reconnaître et recevoir le Messie. Mais ils l'ont rejeté de façon parfaitement inexcusable. Et vous aussi, ce soir, si vous êtes présent et si vous n'êtes pas endormi, si vous écoutez, c'est que vous avez sous les yeux, vous avez à vos oreilles, à portée de main, tout ce qui est nécessaire pour connaître Jésus et le recevoir comme Seigneur et Sauveur, comme roi de votre vie, comme votre Messie personnel. Oui, il représente une menace pour vos propres intérêts égocentriques, mais ne choisissez pas le mauvais camp. Ne choisissez pas le mauvais camp, vous seriez sans excuse après ce soir. D'autant plus que la troisième et dernière chose que Matthieu veut nous faire comprendre, c'est que on aurait beau rejeter Jésus, on ne pourrait pas le faire échouer. On aurait beau rejeter Jésus, on ne pourrait pas le faire échouer. Il est intéressant de remarquer qu'à partir du moment où l'opposition à Jésus éclate dans le récit, donc à partir du verset 12, Matthieu mentionne alors à plusieurs reprises des prophéties de l'Ancien Testament qui s'accomplissent. Le fait que ces prophéties se réalisent constitue dans le texte un argument important qui permet d'authentifier Jésus en tant que Messie. Et d'ailleurs, ça c'est un des thèmes, un des motifs que l'on va retrouver en permanence dans l'Évangile selon Matthieu. Des prophéties qui sont citées comme argument servant à authentifier Jésus comme étant le vrai Messie. Mais ce qui est remarquable, c'est que les trois prophéties qui sont mentionnées ici, à partir du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, trouvent leur accomplissement à travers l'opposition des ennemis de Dieu, des ennemis du Messie. Elles trouvent leur accomplissement précisément dans l'opposition et à travers l'opposition des ennemis du Messie. Verset 15... Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, première prophétie qui est mentionnée et qui est accomplie. Jésus prend prophétiquement la place d'Israël en Égypte pour ensuite en sortir comme les Israélites sous la conduite de Moïse. Mais comment se retrouve-t-il en Égypte pour en sortir et pour pouvoir accomplir cette prophétie? Vous suivez? Comment se fait-il qu'il se trouve en Égypte pour en sortir, pour qu'ainsi s'accomplisse ce qu'avait déclaré le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte? Comment se fait-il qu'il est là-bas en Égypte? Sinon parce qu'il a fui la persécution d'Hérode. Deuxième exemple, les pleurs se font entendre à Rama, conformément à la prophétie de Jérémie, un prophète de l'Ancien Testament, dans un passage où il parle de l'œuvre du Messie et du rétablissement du peuple de Dieu. Mais qui est à l'origine de ces pleurs qui confirment l'authenticité du Messie? Qui est à l'origine de ces pleurs sinon Hérode, qui est précisément en train de chercher à éliminer Jésus? Et enfin, troisième exemple, l'Ancien Testament avait prédit que le Messie serait comme un Nazaréen ou un Naziréen, c'est-à-dire entièrement consacré à Dieu, et voilà que Jésus, là je parle du verset 23, voilà que Jésus, par un tour magistral de la providence de Dieu, devient un habitant de la ville de Nazareth, dont il n'est pas originaire à la base. Et comment se fait-il qu'il devient un habitant de la ville de Nazareth? À cause de l'hostilité du successeur d'Hérode, à savoir Archélaüs. Il est encore en train de fuir ses persécuteurs, ses ennemis, enfin fuir, s'écarter du moins de ses ennemis. Ce qu'on découvre, mes amis, c'est surtout là-dessus que je vais attirer votre attention, ce qu'on découvre à travers ces précisions, c'est vraiment extraordinaire. C'est que l'opposition à Jésus dans ce texte, l'opposition à Jésus est non seulement vaine, mais en plus, elle concourt de façon providentielle à la réalisation du plan de Dieu. C'est extraordinaire. L'opposition confirme, en fait, la messianité de Jésus en concourant à la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament qui le concernent. Ça produit l'effet inverse que celui qui était escompté. Ils veulent faire disparaître Jésus, mais au lieu de cela, dans la providence extraordinaire de Dieu, ils sont en train de le confirmer comme Messie. Les prophéties se réalisent et authentifient Jésus comme étant le Messie qualifié. C'est très très fort ce qui se passe ici. Ça me fait penser au film « L'armée des 12 singes » avec Bruce Willis. Alors là, contrairement à Intouchable, moi l'armée des 12 singes, j'ai trouvé vraiment super. Et dans ce film, le héros est envoyé dans le passé pour essayer de récolter des informations concernant un énorme attentat chimique qui a presque fait disparaître l'humanité de la face de la Terre. Donc l'histoire est un peu compliquée à expliquer, mais à un moment du film, le héros se rend compte, je vais pas tout vous dévoiler, mais quand même, à un moment du film, le héros se rend compte que les efforts qu'il est en train d'entreprendre pour essayer d'élucider cette affaire ont peut-être eux-mêmes provoqué l'affaire. Et le réalisateur nous entraîne dans une espèce de boucle, d'accord, où une boucle temporelle, si j'ose dire, où les événements du passé sont provoqués par les événements du futur en fonction d'événements passés qui n'auraient pas eu lieu sans certains événements du futur. C'est bon? Vous avez tout compris? Ah, mais vous voyez ce que je veux dire? À la fin, en fait, on en sort avec un mal de tête pas possible, mais en tout cas, à la fin, on a l'idée que l'on ne peut pas modifier l'histoire. On ne peut pas modifier l'histoire. On a l'idée, à la fin, qu'il n'existe pas une multitude infinie de scénarios, de scénarii possibles, mais que l'histoire est en quelque sorte écrite d'avance et qu'on ne peut pas la modifier. Alors j'ai trouvé ce film intéressant parce que, dans un certain sens, c'est ce que Matthieu veut nous faire comprendre ici aussi. Dieu a décrété de toute éternité ce qui doit se produire dans l'histoire. Et à ces décrets éternels, sont subordonnées toutes les causes secondes, y compris notre propre volonté et notre propre libre arbitre. Et donc, Dieu peut annoncer d'avance ce qui doit se produire, comme il l'a fait ici en ce qui concerne le Messie, pour qu'on puisse le reconnaître le moment venu, et en même temps, Hérode et les autorités juives, et plus tard les autorités romaines aussi, vont s'opposer à Jésus de façon violente. Et ils sont responsables de cette hostilité, ils sont sans excuse. Mais dans la providence de Dieu, cette opposition qui est subordonnée, comprenez, aux décrets éternels de Dieu, cette opposition contribue précisément à réaliser les prophéties, c'est-à-dire à réaliser le plan de Dieu écrit d'avance, et ainsi à authentifier Jésus comme Messie. On peut donc dire que l'opposition à Jésus concourt au plan de Dieu. L'opposition à Jésus concourt au plan de Dieu, et cette réalité apparaît de façon suprême lorsque plus tard dans l'histoire, Jésus va se retrouver trahi par un de ses propres disciples, abandonné par les autres de ses disciples, livré entre les mains des autorités juives, puis entre les mains des autorités romaines, battu, humilié et enfin cloué sur une croix. Mais comment est-ce possible que ça se produise? Le Messie a-t-il échoué à ce moment-là? L'opposition a-t-elle gagné? Est-ce que c'est Satan, l'ennemi de Dieu, qui remporte la victoire? Est-ce que c'est les ténèbres qui ont réussi à étouffer la lumière? Mais pas du tout. Comme l'ont dit les apôtres quelques temps plus tard, dans une prière qu'ils adressent à Dieu, ils disent ceci, c'est très fort, ils disent « En vérité, contre ton saint serviteur Jésus à qui tu as donné l'onction, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. » Ils se sont ligués, mais écoutez bien la fin de la phrase, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Oui, le ministère de Jésus a toujours eu une dimension terriblement conflictuelle, dès le départ. Oui, Jésus est capable d'attirer sur lui l'opposition la plus surprenante et la plus féroce, mais on aurait beau rejeter Jésus, on ne pourrait pas le faire échouer. Il est quand même qualifié. Et c'est ça le troisième point de Matthieu, que Matthieu veut nous faire comprendre dans ce texte. Il est venu, d'ailleurs, Jésus est venu exprès pour se livrer volontairement entre les mains de ses ennemis et ainsi pour détourner sur lui-même la colère de Dieu contre les péchés de son peuple. Hérode, Pilate, Judas, tous les pharisiens, les scribes, les prêtres, tous ceux qui se sont opposés à Jésus ont contribué malgré eux à réaliser les promesses millénaires de Dieu et à faire triompher la grâce de Dieu en faveur des croyants. Le plan de Dieu s'est réalisé irrésistiblement. Et il continuera de se réaliser irrésistiblement. Avant de conclure, on récapitule très vite. On a vu donc que Matthieu voulait nous adresser un message assez simple, finalement, c'est le suivant. Jésus le Messie est loin d'être consensuel. En le suivant, tu choisis vraiment ton camp. Il nous a donc parlé d'un Messie très recherché, qui est venu comme un cadeau pour le monde, d'une valeur exceptionnelle. Il nous a parlé ensuite d'un Messie pourtant rejeté, capable d'attirer sur lui l'opposition la plus surprenante et la plus féroce. Et enfin, il nous a parlé d'un Messie quand même qualifié, qu'on ne pourrait pas faire échouer quand bien même on le rejetterait. Mes amis, êtes-vous prêts à suivre quelqu'un d'aussi controversé? Êtes-vous prêts à prêter allégeance au Messie, fils d'Abraham venu pour bénir le monde, fils de David venu pour établir son règne bienveillant, fils de l'exil venu pour porter sur lui les péchés de tous ceux qui placent leur confiance en lui? Est-ce que vous êtes prêts à lui faire confiance et à le suivre et ainsi à recevoir le pardon de vos péchés? Mais pas seulement ça, à recevoir une vie transformée par du jour au lendemain. Une vie qui est en train d'être transformée sous l'effet du Saint-Esprit dans votre vie, qu'il a promis de déverser dans la vie de tous les croyants. Est-ce que vous êtes prêts à suivre un Messie qui est si controversé? Petite anecdote pour finir. Il paraît que Jésus est le quatrième sujet le plus débattu du Wikipédia français, derrière les témoins de Jéhovah, troisième, les ovnis, deuxième, et Ségolène Royal. Ce soir, peut-être que certains d'entre vous avaient besoin de savoir ou de vous souvenir que ce Jésus controversé est le cadeau le plus précieux qui ait jamais été offert au monde. À quel point lui sommes-nous attachés? D'autres ont peut-être besoin de savoir ou de se souvenir que Jésus ne fait pas l'unanimité, loin de là, il provoque la contradiction et par conséquent, même s'il est dans notre intérêt de le suivre, cela aura peut-être un coût. D'autres encore ont peut-être besoin de savoir ou de se souvenir que quelle que soit la façon dont nous accueillons Jésus, que ce soit favorablement ou défavorablement, rien ne l'empêchera de réussir dans sa mission. Il a déjà remporté la victoire sur toute puissance qui lui était hostile. Il s'est livré en sacrifice pour délivrer les croyants de leurs péchés. Il est ressuscité en vainqueur suprême sur le mal et sur la mort. Il est vivant aujourd'hui. Et depuis le ciel, où il règne sur toute la création, eh bien, il déploie son règne bienveillant jusqu'au jour où il reviendra, cette fois pour exercer son jugement, un jugement parfait, et pour inaugurer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Jésus le Messie est loin d'être consensuel. En le suivant, tu choisis vraiment ton camp et tu choisis le bon. Amen.